marche. Alors, oui, en fait, la première question que vous voulez poser, c'était de savoir pourquoi vous avez écrit ce livre à ce moment-là. C'est quand même une sorte de bilan politique, un petit peu. Et pourquoi est-ce que ça arrive à ce moment-là? C'est pas franchement à la fin de votre vie personnelle militante, je suppose.
Si, c'est sans doute à la fin de ma vie militante. Je voulais savoir pourquoi, au moment d'aborder un autre volet de mon travail, pourquoi j'avais perdu 30 ans. Je ne les ai évidemment pas perdus. Évidemment pas. Mais comment j'avais pu connaître cette discordance des temps intérieurs entre des engagements militants d'un côté et des positions philosophiques, ou je dirais même existentielles, qui les contredisaient. Et donc, comme j'aborde le moment de construire quelque chose qui pourrait être un jour un champ disciplinaire et que j'appelle la médiologie, donc je voulais savoir comment la volonté de pouvoir avait si longtemps différé la volonté de savoir. Et par ailleurs, j'entendais aussi simplement comprendre ce qui m'avait mis en branle, avec l'idée, la petite idée de derrière, que cela pourrait servir à d'autres. C'est donc vraiment une façon de, comment dirais-je, non pas d'en finir, on n'en finit avec rien, mais une façon de pouvoir continuer sur une autre voie sans avoir à me retourner tout le temps, à me justifier, à m'expliquer. Voilà. C'est un peu un pour-solde de tout compte, c'est vrai.
Il y a quand même une différence. Bon, le sous-titre, hein, c'est
oui.
Une éducation politique.
Oui.
Alors, l'éducation sentimentale, elle est relativement, pas dans ton cas là,
oui.
qu'on peut prendre comme référence,
oui.
Elle est relativement concentrée dans le temps, sur une expérience, etc. Là, c'est une éducation déployée dans la durée.
Tu dis oui, mais crois pas ça, l'éducation sentimentale. Flaubert l'a publié, je crois, en 1869,
oui.
Dans la consternation générale, sans aucun succès. Et regarde, l'histoire commence sans doute vers 1839-1840. Mmh. Je pense que c'est aussi 30 ans. Il semble que 30 ans soit une bonne période pour une éducation. Voilà, bon.
Ça fait partie des temps pédagogiques.
Voilà, c'est le temps qu'il faut pour faire un aller-retour. Je veux dire un aller physique et un retour intellectuel sur le chemin parcouru.
Alors finalement, toi qui confesses au début là, ce que tu appelles une incurable inconstance,
oui.
En revanche, là, il y a une forme de constance aussi.
Tu veux dire.
Il y a une forme de constance et de cohérence, alors que peut-être tu donnes a posteriori, mais qui est de, à la fois, puisque le livre commence comme ça, je hais la vie publique, et en même temps, une sorte d'attraction envers la politique conçue quand même comme exercice du pouvoir.
Mmh. Alors, deux choses. La première, c'est qu'il m'est apparu, mais au plan personnel, et pas seulement philosophique, qu'on savait très peu de choses sur le désir de pouvoir, ce que j'appelle la libido dominandi. C'est vrai que je crois que c'est le continent noir, comme l'était la sexualité avant Freud, et qu'il faut là enfreindre un certain nombre de tabous, de gênes, de pudeur ou de stéréotype. Et donc j'ai voulu, non pas évidemment déployer théoriquement la question, mais essayer de comprendre comment je l'avais vécu. La deuxième chose, c'est que j'ai tout à fait conscience de présenter une vision de la politique biaisée, évidemment, biaisée par précisément cette conception dominatrice, non pas manipulatrice, mais enfin cette conception exécutive, au sens pouvoir exécutif. Est-ce qu'on peut réduire l'engagement politique au désir de commander? Certainement pas, ce serait à la fois puéril et fasciste, mais il me semble, enfin, donc, un, j'ai parfaitement conscience que que ma façon d'envisager le problème politique doit glisser complètement comme sur un canard sur la peau du catholique et du trotskiste. C'est-à-dire sur la peau, au fond, du militant. C'est vrai. Et pourtant, il me semble que dans l'adhésion au marxisme, il y avait l'adhésion à la victoire possible. Tu le dis toi-même au début de ton livre. Alors, je ne dis pas que c'était qu'on fait à monter sur les tanks de l'armée rouge avant qu'ils arrivent place de la Concorde, c'est pas ça, mais il y avait même cette idée. Le marxisme est tout puissant parce qu'il est vrai. Alors, on insistait beaucoup chez les althusseriens sur le dernier mot, vrai, mais le tout puissant, moi, m'intéressait bien, n'est-ce pas? Et en fait, on ne les détachait pas vraiment. Donc, ce qui avait très pervers, au fond, me semble-t-il, aujourd'hui, c'est que on rencontrait la liaison objective installée dans les idées entre la volonté de pouvoir et la volonté de savoir, disons la volonté d'action sur les choses, d'intervention, d'influence, d'organisation, et la volonté de vérité au sens scientifique et théorique du monde. Et ça, je dis que c'était dangereux, pervers, ça en a perverti beaucoup d'ailleurs. Aujourd'hui, au moins j'ai obtenu ça, à libérer totalement la volonté de pouvoir et la volonté de savoir.
Voilà. Mais, oui, mais c'est un balancement qu'on retrouve, je vais noter une série d'oppositions comme ça, sur en gros la sécheresse analytique et tout ce qui relève du cœur, un principe masculin, un principe féminin, l'enclorationaliste opposé à la chaudoralité, la langue de tête à la langue du cœur, etc. Est-ce que c'est pas un dédoublement, pour rester dans ton vocabulaire, non pas une duplicité, j'entends bien la différence, mais quand même un dédoublement commode et coûteux, parce que finalement conjuguer les deux volontés de pouvoir et de savoir, c'est peut-être dangereux, mais y renoncer est aussi très attristant en réalité. Et je ne sais pas si l'opposition n'est pas trop forte.
Non, c'est vrai. Disons que le marxiste dit...
Il y a un vécu du militantisme, si tu veux, qui n'est pas le même.
C'est pourquoi je dis, je présente avec une certaine humilité,
oui, ça c'est...
et conscience de marginalité, cette ambition, non pas totalitaire, mais en tout cas cette ambition de régner, disons, au sens à la fois intellectuel et pratique. Mais disons que le marxiste dit « je sais donc je peux », le fasciste dit « je peux donc je sais ». Il me semble, alors c'est peut-être là je change un peu de sujet, mais nous avons sans doute une différence, toi et moi, Daniel, c'est que je crois qu'il y a une éternité des procédures de pouvoir, je crois qu'il y a un monde propre, comme il y a, si tu veux, dans une perspective freudienne, une éternité, c'est-à-dire une intemporalité de la vie psychique et de la... des complexes, des pulsions et cette architecture intérieure, je crois qu'il y a une logique transhistorique des procédures de domination. Donne à mon propos cette tournure peut-être, sinon désabusée, du moins un peu machiavélienne. Enfin, bon. Quant à cette dualité que tu dis entre le féminin et le masculin, c'est la rencontre de deux cultures. Pour moi, la culture latino est une culture orale. Et je crois que l'idée de révolution, comme l'idée de patrie d'ailleurs, mélange assez bien le féminin et le masculin. Et la culture latino, toute machiste qu'elle soit, me semblait tout de même du côté du féminin. Parce qu'elle étant du côté du mythe, alors c'est peut-être ma propre mythologie personnelle, non, je mets l'utopie rationnelle du côté du masculin, le mythe affectif du côté du féminin, mais il y avait dans le lyrisme révolutionnaire, dans ce qu'on appelle le romantisme révolutionnaire, je crois, la volonté de combiner le pathos et le logos.
Oui, oui.
Bon,
oui.
Et le pathos a des résonances existentielles, enfin, qui tirent un peu vers l'éros, si tu veux. Bon. Alors, bon,
ah, d'ailleurs, ce que tu en dis, même.
Petite mythologie personnelle.
Voilà, m'éclaire sur la propre méfiance envers les utopies au sens grande utopie, grande construction. Mais.
Non, je dis ça parce qu'il faut, si tu veux, c'est tout de même pas. Mon bouquin n'est pas une analyse rationnelle, logique, une coupe logique dans le champ politique. C'est simplement un récit d'une trajectoire qui est passée par l'Amérique latine, donc qui est passée par une culture déterminée, bien singulière.
Et tu dis, alors, attends, je ne vais pas. Parce qu'il y a quand même un prix, je vais essayer de.
Ouais.
Voilà, j'ai rêvé d'une histoire sans politique.
Oui.
Quelque chose comme le cinéma sans l'industrie du cinéma. Bon, mais est-ce que, paradoxalement, l'approche, enfin, l'expérience dont tu rencontres, je ne dis pas que c'est une définition, une thèse sur la politique, effectivement, la part du singulier, d'une expérience personnelle est évidemment centrale, mais est-ce que ça aboutit pas inversement à une politique un peu sans histoire, c'est-à-dire une politique dont finalement la mise en perspective, l'épaisseur, la dimension historique, et du coup qui prend avec le travail de désenchantement un ton parfois dérisoire, alors que tout ça n'est pas dérisoire, forcément. Et, parce qu'il y a les grandes figures qui animent ce théâtre, mais au-delà, moi je crois que continue à jouer plusieurs principes d'intelligibilité du monde, de volonté d'engagement, et du coup à tordre un petit peu au moins la présentation comme ça, j'ai l'impression que tu t'engages dans des dilemmes types, bon, sur la trahison et la fidélité par exemple, qui en dehors d'une mise en perspective historique n'ont pas tellement de solutions, parce que ça devient trahison, fidélité à des individus ou à des principes, mais les critères de jugement deviennent insaisissables presque.
Non, j'admets cette critique, elle me semble très pertinente. C'est vrai que c'est à l'analyse de restituer l'arrière-plan social, historique, des forces sociales en jeu, des conflits de classe. Oui, j'admets tout à fait cela, mais enfin, c'était pas mon propos.
Non,
c'est vrai, mon propos n'était pas, si tu veux, de restituer. Enfin, l'intelligibilité objective du moment historique que j'ai vécu. Mon propos était de restituer la façon dont j'ai vécu. Bon. Donc, c'est les limites de toute littérature de l'aveu. C'est pas vraiment une littérature qui vise à la synthèse ou à la pondération. Bon. Mais c'est vrai, c'est que tu dis. C'est un peu le danger qu'il y a à penser que Ramsès II organisait la vie de la cour comme Jules César, Napoléon et Mitterrand, et que le prince de Machiavel pouvait être lu en moins 2000, en l'an 0 et en plus 2000. C'est vrai que c'est une abstraction, ça. Mais il y a tout de même là-dedans, me semble-t-il, un noyau de vérité, et qui fait qu'au début, je signalais le décalage entre mes engagements et, au fond, une sorte de conviction philosophique que j'ai en moi, à savoir que Eadem semper omnia, quoi. Enfin, les choses sont toujours les mêmes, tout est toujours la même chose. Dans ce domaine-là, hein, dans le domaine. Autrement dit, qu'il n'y a pas d'histoire dans les relations de l'homme à l'homme. Les relations de domination, de maîtrise, de manipulation, d'entraînement. Alors, mais ce que tu dis est vrai, le danger, alors, est de retomber dans des cas très idéalistes, une problématique de la conscience individuelle, je m'engage pas. Ce que j'essaye de montrer, au contraire, dans ce livre, c'est que on ne prend pas la décision de s'engager, on est engagé par le monde même. Les jeux sont faits au moment où on joue soi-même, quoi. On est pris dans une structure qu'on ne domine pas bien, qui peut être une structure à la fois fantasmatique, individuelle, et aussi une structure politique objective. Bon, voilà, c'est vrai que je ne suis pas très sartrien en ce sens-là. Je me sentais la plus proche du Merleau-Ponty, si tu veux, qui avait compris tout de même que la viscosité, la complexité, le caractère un peu piégé, quoi, de l'activité politique.
On peut s'entendre sur Merleau-Ponty. Bon. Ce sera au moins un point de rencontre.
Bon. Mais alors, moi, à mon tour, je voudrais te poser une question. Parce qu'au fond, moi, je fais un peu un bilan de fin, mais je ne fais pas un bilan de début. Et la question que j'ai envie de te poser, c'est... On sait ou on devine à peu près ce qui a fini avec la chute du mur de Berlin. Mais est-ce qu'on sait ce qui commence, ce qui recommence? Et toi, qui, si j'ai bien compris, continue d'être, de trouver Marx opérationnel, qu'est-ce que tu peux dire de ce qui est en train de naître?
Pas grand-chose. Hein. Bon, on ne va pas disserter sur Marx, mais opérationnel, je le prends dans le sens de donner des éléments d'intelligibilité sur le monde tel qu'il va et ses conflits. Ce qui est déjà pas si mal, parce que on peut regarder les discours ou les idéologies ambiantes, discours libéral, en quoi rend le monde à peu près compréhensible, au moins dans les grands traits. On lit n'importe quelle rubrique économique d'un journal aujourd'hui, mais ces types-là sont délirants ou incohérents. Enfin bon, du jour au lendemain, on peut retrouver des fils chez Marx, ce qui fait que, après tout, il reste de la compréhension. Maintenant, pour la prospective, je crois qu'il ne faut pas confondre le souhaitable. Enfin, en gros, la projection d'une volonté sur un avenir qui soit envisageable et le pronostic. Ça, sur le pronostic, je t'avoue que s'il ne veut en faire un, il est tout autant intuitif que rationnel, mais il serait assez pessimiste. Hein, là, on rejoint, c'est un des passages, je trouve, des très beaux passages du bouquin. Toi, tu donnes la fin des trois cycles de l'imprimerie, de la République, du prolétariat. C'est assez convaincant. Mais surtout, la conclusion, c'est qu'on n'a pas changé d'époque, on a changé de temps. Bon, avant le temps était une forme de pont vers un dénouement, vers quelque chose. Là, on a l'impression d'une ouverture vers l'incertain.
Alors, oui. Tu dis très justement l'événement 89, enfin pour l'appeler ainsi, ça éblouit, mais ça ne rayonne pas, je crois. L'événement 89, 1989, chute du système soviétique, c'est un événement à la fois considérable et...
Oui, qui rayonne pas.
Éterne,
oui.
Atone, mat, c'est vrai ça. rien ne brille. Mais alors, j'ai envie de te dire, comment peut-on rester marxiste si l'on admet qu'il y a une interruption du fil, c'est-à-dire que la pièce s'arrête, il n'y a plus de dénouement à attendre à l'acte 5, on ne sait plus ce qui se passe. Est-ce que même le marxisme n'est pas un messianisme articulé, avec une échelle des temps, avec articulé à une fin? Et si on supprime l'attente de ce dénouement qui est à la fois le début de quelque chose d'autre, le retournement du système bourgeois en système prolétarien, etc. Alors qu'est-ce qui reste de toute la construction?
Ce qui n'est pas le marxisme, c'est déjà un enjeu. On peut essayer de définir.
C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un marxisme qui attend Godot, si tu veux? C'est-à-dire qui attend quelqu'un qui ne viendra pas.
Peut-être. Il est vicieux, hein. Non, mais je ne le prends pas non plus comme ça. Autant, tu peux dire, il n'y a pas une trajectoire tracée vers un dénouement.
Il y a tout de même une structure d'attente.
Mais il y a une structure d'attente. Tu parles du révolutionnaire comme un veilleur ou un guetteur à l'affût. Moi, ça me convient parfaitement. Mais à l'affût de quoi? Alors, non pas d'un dénouement qui est préparé, préécrit, d'une forme de prédestination, mais comme une invention dans une gamme de possibles. Bon, et là, ça devient une attente active. Tu as parlé du messianisme. Alors, souvent, dans l'image la plus courante, le messianisme, c'est une attente du salut, de la rédemption. D'ailleurs, on parle du Nietzsche, non pas comme ambition, mais c'est pas une figure de l'ambition, c'est une figure de la rédemption. Souvent, bon, on a cette idée associée messianisme à une sorte d'attente plus ou moins passive. Non, je crois, à partir des textes de Benjamin, hein, je n'ai rien inventé, que, au contraire, c'est une position active face à une série de possibles entre lesquels le choix, la décision dépend pour une petite partie encore de nous. Pour une petite partie. Et quand bien même, sinon, enfin, moi, c'est l'approche fondamentale. Alors, reste. Alors, il y a une part de pari, évidemment. Moi, je trouve que la figure du pari, Goldman avait déjà souligné, le pari de Pascal, interprété par Goldman, c'est la figure même de l'engagement politique et d'une forme de situation de l'homme sans Dieu. Bon. L'avenir est garanti par quoi? Pas par la science, pas par l'histoire majuscule, pas par Dieu, donc il n'est pas garanti du tout. Ben, il faut parier, on est embarqué, on est exactement dans ce cas de figure-là. Mais on est embarqué.
Oui.
C'est-à-dire.
Alors je formulais ma question d'une autre façon. Au lieu de demander qu'est-ce qui faisait courir Daniel Ben-Saïd en 1965, je lui demanderais. Est-ce que s'il avait 20 ans aujourd'hui, est-ce qu'il courrait de la même façon? C'est-à-dire, est-ce qu'il s'engagerait dans le mouvement trotskiste et de façon générale dans l'activité révolutionnaire?
Je peux difficilement répondre ce que je ferais si j'avais 20 ans, demander. Mais enfin, je ne regrette pas de l'avoir fait.
Oui.
Ça, en revanche.
Nous sommes d'accord. Oui. Nous sommes d'accord sur ce point. Toi et moi. Bon. Cela étant dit, qu'est-ce qu'on a appris depuis 30 ans qui pourrait servir les autres à mieux faire ce que nous n'avons pas tellement bien fait?
Il y a un travail. Finalement, il y a des éducations parallèles entre nous, ce qui est un peu normal. Bon, on a vécu à partir de formes militantes de la même époque. Moi, je dirais. Je ne sais pas si c'est transmissible, mais
il faut que ça le soit en tout cas.
Mais ce que j'en tirerais, parce que pas raconter non plus d'histoire dans ce que tu dis sur le corps voulait le pouvoir, etc. On n'a pas été épargné par ça. Peut-être qu'on l'a vécu, exprimé différemment, qu'il y a eu des délires et des bouffées de pouvoir dans certains groupes, d'ailleurs trotskistes, maoïstes. Je crois que pour des raisons presque culturelles, on a été plus obsédé par l'anti-pouvoir. Mmh. Les deux ne s'excluent pas forcément.
Oui, oui. Hein.
Bon, il y a tout un décorum, un rituel militant qui est hanté par des figures de pouvoir. Mais en même temps, notre naissance presque anti-bureaucratique, mmh. et évidemment, il y a un prix aussi à ça, c'est que le côté efficacité politique, on peut discuter des critères d'efficacité, mais en apathie aussi, c'est-à-dire qu'on s'est tenu à distance de tout ce qui pouvait commencer à corrompre par contact avec le pouvoir. Donc tout ça a été mêlé à des doses différentes selon les courants, les individus, etc. Mais ce qui resterait aujourd'hui, c'est un travail, je dirais, interminable, mais dans lequel je crois qu'on a quand même un peu avancé, de sécularisation, de laïcisation, c'est-à-dire de faire de la politique de manière moins religieuse, je ne dis pas arreligieuse, il reste toujours quelque chose là-dedans,
ouais.
Mais moins. Et alors, il y a des défis sur lesquels moi je reste peut-être naïvement, l'éducation du coup n'est pas terminée, mais c'est est-ce qu'on peut mettre une énergie, une conviction, parce que une lutte est une lutte quand même, hein. Donc une énergie très forte, sans avoir de certitude absolue. C'est un défi rationnel. Si on arrive à construire du militantisme là-dessus, je crois qu'on n'aura pas complètement perdu notre temps. Tu dis que tu as été naïf en rêvant ou en pensant une violence sans haine. Je conçois que c'est aussi un gros défi. On le vit, c'est pas seulement dans les idées, mais même dans le quotidien, dans des choses assez banales. Pour ma part, j'ai pas renoncé. Je suis pas sûr que ce soit possible. Mais en tout cas, agir comme si ça pouvait devenir possible. Bon, je dirais que c'est un peu ça, l'apprentissage. Et si ça, on pouvait faire en sorte que... Parce qu'il y aura des cycles militants, je ne sais pas sous quel signe, pas sous les mêmes symboles, etc. Mais ce que tu dis est en tout cas parfaitement pertinent. Mais bon, les cycles militants, le conflit existe. S'ils seront engagés d'une manière ou d'une autre, finalement, l'engagement, ça parera de terre. Il n'y a pas besoin forcément d'avoir un horizon magique pour... Mais si cet engagement pouvait partir de ces éléments-là comme acquis, je pense qu'on peut modifier un peu la politique par l'incantation sur notre politique, la politique autrement, tu dis ça revient effectivement tous les 15 ans, mais effectivement, une autre vision de soi-même et de la politique.
C'est là où les sympathistes ne viendraient pas comme un cheveu sur la soupe, comme un effet de mode. Parce qu'il y a tout de même chez eux cette laïcisation que tu dis, qui s'exprime par l'ironie et la poésie en un sens. En fait, que la poésie amène un peu de sacré, une sacralité collective, la sacralité du langage et aussi de la mémoire indigène. Mais il y a cette ironie, non seulement sur les puissants, qui est traditionnelle, mais sur soi-même. C'est quelque chose de tout à fait nouveau, tout de même, dans l'engagement avec la... On n'avait pas trop le sens de l'humour à la Ligue, me semble-t-il.
Il y a toujours eu un grain d'humour juif qui est resté. Tu connais bien Henri. Je ne sais pas, enfin, c'est difficile de s'octroyer à soi-même le sens de l'humour, on ne sait jamais. Je ne pense pas que c'était une organisation non plus austère ou particulièrement triste. Maintenant, bon, c'est vrai qu'on se prend... Faire les choses sérieusement sans trop se prendre au sérieux, mais on se prend toujours un peu quand même.
Oui. Mais enfin, pour en revenir à notre cas, si tu veux, dans à la fois ce qu'il a d'identique et de différent. Au fond, moi je dis, début des années 60, sentiment d'imminence d'une victoire mondiale qui va changer la face du monde et peut-être même la face de l'homme. Deuxièmement, une sorte de devoir de mémoire ou de reprise d'une mémoire interrompue, qui est la mémoire du combat ouvrier mondial. Mais de mon côté, c'était tiers-mondiste. C'est-à-dire, au fond, j'avais une connaissance un peu scolaire, disons, de Rosa Luxembourg, de mouvement spartakiste, d'octobre 17, etc. J'avais une connaissance beaucoup plus immédiate, émotive et vraie, disons, de la guerre d'Algérie, du mouvement Vietnam, de la révolution cubaine et du Guatemala. Alors, comment ça fonctionnait pour toi? Ce sentiment d'imminence, tu l'avais aussi?
Ah oui, oui. Bah,
le sentiment de mémoire aussi, bien entendu, plus que tout autre, en ta double qualité de juif et de trotskiste, évidemment. Mais alors, qu'est-ce qu'il y avait en plus ou en moins chez toi par rapport à ça? C'est-à-dire, au fond, je te retourne un peu cet examen que je fais, cet examen de conscience. Examen de conscience ou d'imaginaire, je ne sais pas, de sentiment, mais toi, qu'est-ce qui t'a fait basculer comme ça dans la vie militante, quand tu étais au fond fait pour être un producteur de savoir, un intellectuel, un professeur, un essayiste, voilà.
On va savoir, on a tous quand même une pelote de pulsions qui peuvent être contradictoires. Bon, j'aurais pu faire un parcours typique, universitaire, mais en même temps, il y a une... Alors, je ne sais pas si c'est parti de l'appétit de pouvoir ou de l'appétit d'action, mais bon, ça, c'est... Je ne suis pas tellement introspectif, donc je ne sais trop rien. Maintenant, sur ce qu'on peut en dire de politique, cette dimension de... Je crois que la dimension de mémoire est déterminante, effectivement. Mm-hmm. Enfin, même, c'est pas une question d'âge, on peut être jeune et aller vers la mémoire, hein, que ma main droite se dessèche et que ma langue se colle à mon palais si je t'oublie Jérusalem. Donc, on est déjà marqué par un stigmate de mémoire de longue date, et puis il y a des mémoires emboîtées les unes aux autres, évidemment. D'ailleurs, ce travail de mémoire, on a l'impression que souvent tu exprimes une appartenance à une sorte de génération perdue ou frustrée des grands moments héroïques ou fondateurs. Bon, mm-hmm. On c'est est une génération de série B. Bon, mm-hmm. Oui, c'est vrai qu'on a tous été un petit peu en attente de nos grands moments. Bon, finalement, ça aussi on a appris. On fait l'histoire telle qu'elle passe à portée, on n'a pas forcément choisi, on fait le mieux possible ce qu'on croit devoir faire. Bon, il n'y a pas eu de grands moments lyriques, et je n'ai pas l'illusion, hein, ce qui me concerne, de prendre 68 pour octobre et la bourse pour le palais d'hiver. Mmh. C'était quelque chose de beaucoup plus terre à terre. Mais or, en même temps, tu dis très bien, il y a l'anachronisme propulse aussi. Mmh. C'est-à-dire que ce rapport au passé, qui est un rapport de fidélité, qui évoque l'invincibilité vaincue, moi je voyais ça profondément. Hein. Je te dis pas chez nous que c'est pas une. C'est pas une culture, c'est pas un vote de congrès, c'est quelque chose de diffus. Mais. Et peut-être d'ailleurs, c'est ce qui permet d'être un peu épargné par ces effondrements actuels, c'est que l'engagement militant ou révolutionnaire, sans y mettre une charge de grandiloquence ou en essayant de l'éviter, c'est plus un engagement vis-à-vis du passé que vis-à-vis d'un avenir radieux. Mmh. On ne se rend pas et on ne peut pas abandonner ces combats, cette histoire, cette mémoire à toi aujourd'hui, à la soupe libérale, au machin. Non, ça, c'est pas possible. Là, il y a un rapport de dette messianique. Si tu veux, c'est un retournement du messianisme. Hein. La formule de Benjamin, là-dessus, est très... Nous sommes attendus. Nous n'attendons pas seulement, mais nous sommes attendus parce qu'il dépend de ce que nous sommes et de ce que nous ferons que le sens du passé change. Mmh. Bon, et ça, je crois que ça a été une charge importante dans la durée, parce que, bon, effectivement, par rapport à des découragements ou à des échecs qui peuvent démolir, ça, c'est une constante qui demeure. On peut pas jeter l'éponge aussi facilement par rapport à cette charge-là.
Sauf qu'on est contraint, on débouche sur une révision à la baisse des facteurs historiques de l'engagement, c'est-à-dire la sensation d'imminence, elle n'existe plus. Le devoir de mémoire, peut-être que le devoir reste, mais la question est celle de la mémoire pertinente ou non. Si c'est la fin économique, matérielle, objective du prolétariat, prolétariat d'industrie, en quoi la mémoire prolétarienne est-elle pertinente dans le monde d'aujourd'hui ? Alors, il y a peut-être une révision à la hausse des facteurs moraux, c'est-à-dire au fond d'une évidence d'insatisfaction devant l'inégalité, devant le privilège, devant l'irrationalité des dominations actuelles. C'est vrai. Mais si d'un côté tu dis, je reviens à ma question, si d'un côté tu dis oui, nous sommes à la fin d'un cycle qui était le cycle en gros ouvert par la réforme et l'imprimerie, comme tu mentionnes Corse, là, le travail a quitté le travailleur. Mmh. Entre parenthèses, j'ai visité une usine robotisée de pneumatiques chez Michelin à Clermont-Ferrand, c'est hallucinant. Bon, fermez la parenthèse.
Hallucinant, à quel sens ?
Hallucinant de l'évacuation du travailleur du processus de production. Voilà, quoi, voilà, c'est bon. Et deuxièmement, donc voilà, et puis on rentre dans les nouvelles coordonnées d'une vidéosphère ou d'une numérosphère où le support papier, l'imprimé, le temps de lecture, tout ça devienne un peu contesté. Alors,
que va devenir le peuple du livre s'il n'y a plus de livre ?
Bah oui, c'est un problème. Non, alors, ce qui est curieux, c'est que généralement la plupart des révolutionnaires de ton origine deviennent religieux sur le tard. C'est la renégation, mais doublée d'une réinscription fidéiste dans la mémoire judaïque. Enfin, bon, je pense à Béni Lévi.
Oui, évidemment.
Voilà. Bon. Et alors moi, ça me plaît beaucoup que tu maintiennes le cap de la sécularisation. Mais est-ce que cette mémoire dont vous, Trotsky, vous êtes porteur, est-ce que tu la crois toujours pertinente ? Voilà. Est-ce que tu la crois toujours, je dirais pas efficace, mais est-ce qu'elle fait sens dans le monde d'aujourd'hui ?
Enfin, si tu veux, la question est posée de façon presque, oui, de façon sympathique, mais là, pour y répondre, à mon avis, on est obligé de déborder un petit peu les catégories de rangement trotskiste, parce que là, ça serait effectivement court. Dire, bon, moi je renie rien, j'ai assumé, sans frénésie identitaire, oui, devant un stalinien, je suis trotskiste, mais sinon, je ne le vis pas comme une définition satisfaisante. S'il y a aujourd'hui quelque chose à transmettre, une continuité, une loyauté de mémoire ou quelque chose comme ça qui y ressemble, en fait c'est à la fois beaucoup plus difficile et beaucoup plus vaste, parce que derrière ce type de résistance, ce qui est en jeu, c'est pas simplement l'opposition au stalinisme au parti de la révolution russe, c'est toute une culture qui inclut des éclairages, des lectures de la Révolution française, en fait, tout un mouvement, on pourrait dire de façon un peu pompeuse, de civilisation. Alors, qu'est-ce qui sera pertinent là-dedans ou pas? C'est difficile d'en préjuger. Bon,
les valeurs de rationalité critique.
Mais évidemment, l'universalisme.
L'universalisme.
Je crois que c'est un point sur lequel on tombera d'accord assez facilement. Pour moi, c'est un des critères de progrès. Alors aujourd'hui, il y a des tas de discours communautaires, particularistes. Et c'est vrai qu'il y a eu des points de croisement avec les droits à la différence, que l'idéologie 68, entre guillemets, a finalement nourrit des choses qu'on ne souhaitait pas. Mais si on veut remettre un petit peu les choses à plat, un des critères pour moi de ce qui pourrait encore être en progrès, c'est l'universalisation effective, pas abstraite et formelle, pas celle du GATT ou de la mondialisation telle qu'elle se déroule, qui va avoir au contraire l'effet inverse d'attiser...
De relocalisation dramatique.
J'ai cité ça, c'était un article de Libé qui avait fait une tribune qui est bon. Je crois qu'on est d'accord là-dessus, mais une universalisation concrète, ça reste un but et du coup un fil conducteur. Alors, est-ce que cette mémoire-là, au sens général, encore une fois, d'un mouvement historique de culture, de civilisation, d'universalisation, s'emparer, rester, c'est ça, ou c'est des formes, en général, on est comme les militaires, on imagine toujours la barbarie sous les formes qu'elle a pu revêtir il y a 20, 30 ou 50 ans. Je crois qu'il faut s'attendre justement, au contraire, à de l'inédit. On peut dire des choses, je ne sais pas si c'est pire, mais en tout cas, qu'on n'a pas imaginé, qu'on n'a pas encore imaginé. Mais c'est un peu l'un ou l'autre. Alors, est-ce qu'il y a un vecteur pour porter cette universalité, pour porter cette rationalité, dès lors qu'on voit se défaire une figure du prolétariat qui était la troisième des figures que tu énumères? Là-dessus, personnellement, je serais prudent. Je crois qu'on va un peu trop vite. On voit bien se profiler un autre univers. En même temps, je ne crois pas qu'il faille coller à une image trop datée du prolétariat. Quand Marx en parle en 1848, ça n'a rien à voir avec les cheminots, les mineurs de Zola, c'est quoi, c'est des artisans du Faubourg Saint-Antoine. Bon, on a d'autres figures qui peuvent naître. Les mutations n'ont pas cessé en la matière. Est-ce que les nouvelles figures seront productrices de conscience collective? Ça, c'est la vraie question. Et elle n'est pas jouée d'avance. Elle a rien d'évident pour moi. C'est l'enjeu d'un combat qu'on peut perdre. Et le on est très, très, très généraliste dans ce cas-là. Mais s'il est perdu, je crois que il y a quand même de fortes raisons d'être pessimiste. On verra bien. Et dans la mémoire, le problème, c'est de savoir est-ce que donc. Est-ce qu'on peut retrouver un sens, non pas un sens linéaire de progrès, mais des événements qui ont rayonné? Alors, toi, tu tiens, à juste titre, à mon sens, par exemple, nous, on est peu et trop peu des rejetons de la Révolution française. Enfin, nous, comme courant politique, on s'est un peu vécu comme les enfants d'octobre, point. Puis avant, il y avait une préhistoire un peu nébuleuse. Ça, je crois que c'était un manque et une faiblesse, en réalité, de ne pas s'inscrire, voir comment, justement, au Mexique, le fait de s'inscrire dans une histoire plus longue est une force. Alors, le rayonnement de 89-93, il est peu contestable. Maintenant, comment il peut être reçu aujourd'hui, ça, c'est aussi... ça fait partie des choses pas jouées d'avance. Est-ce qu'on est capable de faire briller à nouveau quelque chose de 1917 qui a peut-être brillé de façon aveuglante, y compris au sens négatif du terme, mais aujourd'hui on est passé à la négation totale. C'est plus un événement, c'est quelque chose sur quoi on passe. Ou alors, moi je crois qu'on peut encore s'adosser de manière beaucoup plus, là encore, je ne sais pas, laïque, enfin, en tout cas, beaucoup plus profane qu'on ne l'a fait dans le demi-siècle passé, à ce type d'événement-là, pour aller y chercher justement les, ce qu'il y a de dynamique universalisante dedans. Bon. Mais plus que du pronostic, c'est, tous ces problèmes-là, pour moi, sont inscrits dans une lutte. Alors, elle est peut-être mal partie, on est peut-être dans un rapport de force très inégal, mais tant qu'il y a lutte, il y a une forme d'espoir là aussi. Hein. C'est l'agonie chez Maria Tegui, ça fait partie encore du combat.
Chez Maria Tegui, tu parles chez le Pérouvien ?
Oui.
Je ne me souviens pas de l'agonie chez Maria Tegui.
Il y revient plusieurs reprises sur l'agonie comme lutte.
Ah oui. Moi, ça fait bien 30 ans que je n'ai pas lu Maria Tegui. Même s'il est responsable involontairement de mon premier emprisonnement dans les techniques.
Le pauvre.
Mais oui, il n'y est pour rien. Mais j'étais allé à Lima en 64 rendre hommage à Maria Tegui sur sa tombe. Il y avait une petite cérémonie de l'extrême gauche pérouvienne. Je me suis fait coffrer à la sortie du cimetière.
Ah, t'as vu, j'étais très content de trouver chez Maria Tegui chose sur Jeanne d'Arc.
Ah oui,
j'ai mis en exergue.
Ah oui, je me souviens pas. Oui, ça m'a, c'est vrai, maintenant ça me revient.
Sur Tegui, d'abord par mon prof de lycée qui était maurassien, et qui, j'ai toujours eu, les gens de droite m'ont toujours pris en affection, d'une certaine droite un peu traditionnaliste, je comprends très bien pourquoi par ailleurs, et il m'a écrit là, c'est là récemment. Et il me donnait à lire du Pelli, bon, au lycée, et puis c'est revenu à cause de Benjamin. C'est beau, j'avais enfoui ça quelque part, puis bon, l'intérêt de Benjamin pour Pelli, effectivement, c'est. Bon, c'était peu fait en France, mais le parallèle entre Clio et la conception benjaminienne de l'histoire, ben. De toute façon, c'est une influence annoncée, c'est pas une interprétation érudite, Benjamin le dit, hein, une affinité pour la mélancolie maîtrisée. Et ben voilà, j'étais quand même assez étonné de trouver une critique de la grande épopée historique.
Oui, c'est drôle parce que Michel Serres, d'un tout autre angle de vue, retombe sur Clio lui aussi dans son livre La philosophie française pour dire voilà la pensée la plus moderne de l'histoire qui inclut la contingence, l'événement, oui. La singularité, oui. La catastrophe, etc.
Et là il y a une nébuleuse, bon, que Michel Levy a bien dit, bon, serait pas du tout avec les mêmes qualités, c'est vrai qu'il y a des choses bien contradictoires. Et Bernard Lazare, bon, comme il n'a pas une œuvre c'est le moins connu des trois, mais il y a une constellation et qui est curieuse parce que dans la culture française, elle a été pas mal refoulée pour des raisons diverses. Mais alors, Bernard Lazare, si on va voir les textes pour le sionisme de Bonaloi, il est quand même peu fréquentable. Moi, quand je suis invité dans le machin juif, je j'amène toujours sous le bras, je vais être agressé. Bon, et ça, c'est la parade irrécusable, ce qu'il a écrit à l'époque sur le sionisme, sur la bourgeoisie juive. Peggy, bon, il a été capté par le catholique réac, en partie, c'est l'image qui domine. Et Sorel, bon, vu ses sinuosités, bon, donc il y avait tout une autre approche de l'histoire, enfin, en pointillé, qui a été considérablement refoulée au profit de la version positiviste, progressiste, au sens. C'est dommage parce que. Tu as réussi à retourner la situation, effectivement. Je fais quand même des
une saine alternance.
Je fais quand même des. Parce que là, bon, finalement, avec des approches sûrement assez différentes.
Mais non, mais c'est intéressant de mettre en regard un peu toutes les approches.
Oui. Mais curieusement, on arrive à trouver plus de points de rencontre qu'on pourrait imaginer au départ. En revanche,
il y a une vraie différence entre nous. Sans doute tempérée, c'est toi depuis que tu as découvert ou redécouvert le pays de ta scolarité, mais c'est la nation.
Oui, mais c'est exactement. Exactement. J'allais y venir parce que, bon, j'ai vu une bribe d'émission, je crois que c'était sur LCI, c'est intéressant comme ça, la manière dont tu exprimes ça. Mais par rapport au soupçon, disons, de glissement de la nation, nationalisme, etc., tu as une réponse qui est imparable d'un certain point de vue, qui est de prendre la nation dans le sens que tu lui donnes, c'est-à-dire le sens civique, 1789.
La souveraineté du peuple.
La souveraineté du peuple, donc c'est un contenu politique. Oui. Et c'est un dépassement, justement, de ce qu'était à l'époque le point de vue borné de l'appartenance organique à la terre, à la communauté, à la religion, etc. Qui est parfaitement vrai, mais ça, c'est ta définition, je dirais presque privée. Aujourd'hui.
Oui, d'autant que le terme d'appartenance, je le revendiquerais. Le caractère organique de l'appartenance, avec tous ces relents terriens et portuaires, à la Barèze, non, évidemment, mais je crois au principe d'appartenance. Je pense que l'homme est un être territorial. Sur la circonscription, c'est-à-dire l'homme ne peut pas vivre dans un milieu totalement ouvert qui n'a pas de frontières. L'homme ne peut pas vivre dans l'infini. Il vit toujours dans une finitude marquée soit physiquement par une frontière géographique, soit aujourd'hui par une frontière communautaire ou une frontière doctrinale. L'homme est un être qui ne peut pas, vivre à l'état d'atome libre, sans identification, sans appartenance, sans un nous de référence. Et là-dessus, il me semble que c'est une condition anthropologique. Enfin, voilà. Alors, ce qui est formidable, c'est que dans la nation républicaine, on arrive à marier l'universel et le particulier par un mariage très délicat, singulier. Enfin, on arrive à marier, disons, le féminin de la nation au masculin de la loi et de la liberté de conscience. Mais il y a tout de même là quelque chose sans doute impur, d'un point de vue rationaliste, abstrait, mais qui me semble indépassable. Et je, loin de le subir comme une contrainte, le credo républicain,
en fait un principe de gaieté, un principe d'exaltation, un principe d'action. Et c'est là-dessus où moi je me suis toujours, senti le trotskisme comme ayant une case manquante, comme au fond un universalisme abstrait.
Oui, voilà. Oui.
Et ça me semblait tout de même, moi, une des leçons majeures que je tire des avatars de l'international, des internationales, des quatre internationales, c'est elles n'ont pas pu résister au choc nationalitaire. Et parce qu'elles avaient refoulé l'appartenance, elles ont été vaincues par l'appartenance. Voilà. On est toujours mangé parce qu'on refoule. Et là-dessus, je me suis... c'est ce qui m'a empêché, si tu veux, de rejoindre la quatrième internationale. C'est un sentiment que j'ai eu assez jeune. Je ne me l'expliquais pas bien. Mais en 67, en Bolivie, j'en ai eu la confirmation éclatante. Voilà. Et depuis lors, tout m'a confirmé ça, et je fais une relecture nationale ou patriotique, disons, des révolutions socialistes, communistes, qui fonctionnent à chaque fois très bien. Et, alors, je ne dis pas que c'est facile hein, de marier l'universel et l'appartenance, c'est-à-dire, au fond, oui, l'un est multiple, le particulier, le genre humain, etc. Mais c'est tout de même là où tout se joue, me semble. C'est là où l'efficacité se joue. Et ce qui m'a intéressé dans le sympathisme, c'est dès le début cette compréhension. À vrai dire, elle n'est pas très originale, puisque les castristes étaient des patriotes, les maoïstes aussi, les léninistes peut-être plus qu'ils ne l'imaginaient eux-mêmes, mais pour la première fois, là, on a un mouvement à la fois révolutionnaire et explicitement mexicain. Tu sais que c'est aussi à tel point que les sympathistes ne veulent pas entendre parler ni des salvadoriens ni des guatémaltèques. Ils n'en veulent pas dans leur rang. C'est quand même incroyable. Même quand ils sont indiens, souvent, les Totsils, ils s'en foutent d'être guatémaltèques ou mexicains. Et là, il me semble qu'ils ont compris qu'ils voient quelque chose de décisif. Mais qui d'ailleurs correspond peut-être moins à une idéologie qu'à un impératif pratique, ce qui est de.
Une force de la nation mexicaine.
Une force de la nation mexicaine, par l'anti-impérialisme, bien sûr.
Une histoire fortement identifiée, c'est la révolution mexicaine.
Voilà, la révolution agraire, la révolution sapatiste était elle-même très. À la fois libertaire et patriotique, c'est un truc très très bien, hein, parce que Zapata était anard. D'un certain côté, mais il était aussi complètement homme du terroir, du drapeau, de l'indépendance nationale, etc. Enfin, bref, voilà. Donc là, nous avons, je crois, une différence d'approche.
Ben, oui.
Ce qui fait que être gaulliste est pour moi quelque chose de naturel. Je m'étonne toujours qu'on s'étonne que je le sois, mais je me dis, mais enfin, excusez-moi de... Ça me semble couler de source. Je suis gaulliste comme les autres sont sympathistes, ou, tu vois. Ou partisans de Sun Yat-sen s'ils sont chinois, à Canton. Bah oui, c'est comme ça, quoi.
Non, mais c'est pas incohérent, bien que ce soit pas inévitable, en ce sens. Ton approche de la nation, avec sa conclusion.
Non, gaulliste. Gaulliste, entre guillemets, avec quatre guillemets.
Oui,
et je veux dire, enfin, revendiquant la figure de Gaulle comme une figure majeure de l'histoire de mon pays. Oui, bien sûr. Comme un facteur d'identité,
Mais tu. Enfin, premièrement, sur le trotskisme, ou la quatrième internationale, comme cosmopolitisme abstrait, parce que, bon, finalement, l'internationalisme, c'est. Un problème de mots, un problème de contenu, mais il pourrait y avoir autre chose. Mais il y a ce côté abstrait, incontestablement, alors, qui conjugue, qui combine des racines culturelles. Ça s'est forgé dans l'opposition au stalinisme, donc à la revendication grand russe, à une forme de nationalisme. Il y a eu cette protestation internationaliste avec peu de moyens pratiques en plus. Donc, évidemment, peut-être qu'il y a un cosmo. On trouve dans l'opposition de gauche, sans mythifier, mais dans les intellectuels, en tout cas de l'opposition de gauche, quantité de juifs d'Europe centrale ou de l'Est qui pouvaient difficilement s'identifier à ces nations de tradition, un petit peu. Donc tout ça s'est combiné incontestablement. L'expérience, on l'a faite aussi, hein, de Trompe-toi, c'est que dès que tu te rapproches d'une certaine manière du réel, tu rencontres les particularités et la force de la question nationale. Tu disais, bon, c'est paradoxal les Mexicains par rapport au Guatemaltèque, etc. Mais plus modestement, tu apprends ici que tu ne peux jamais envoyer un Suédois faire le salut international à un congrès danois. C'est inconcevable. Bon, tout internationaliste que tout le monde soit, bon, c'est impensable. Sans arrêt, tu butes sur des issues. Bon, évidemment, encore moins imaginable envoyer un Anglais parce qu'il parle la langue aller saluer les Irlandais. Faut pas y songer. Donc, même dans une petite vie politique comme ça, modeste, le problème, tu le rencontres en permanence. Alors, il y a une différence, c'est que sur l'Amérique latine, moi j'ai découvert un petit peu la question nationale dans le Pays basque, hein, à la fin du franquisme, il y a quelque chose quand même de très fort. Après, tu discutes sur la politique, mais en Amérique latine, c'est pas évident, les copains du PRT qui de fait s'autodissoutent, ça se discute, mais enfin, je sais pas si tu as rencontré Sergio, etc. Mais bon, je pense que le projet aujourd'hui, c'est avec, dans ou autour des apatistes, la gauche telle qu'elle s'était projetée avant 88, c'est un épisode qui est clos. Hein. Donc, mais eux ont beaucoup redécouvert la question nationale. Alors, au Mexique, en plus, elle est très forte par rapport à la mitoyenneté avec les États-Unis, à une histoire qui est une histoire forte, qui n'est pas un pays, mais qui s'est forgé réellement. Bon, donc le Mexique a une dimension nationale incontestable. Bon, je ne connais pas en revanche, le sentiment est faible au Brésil.
C'est vrai. Tu sais pourquoi ? C'est un pays tellement grand.
Mais oui, c'est ça. C'est
tellement
c'est
fort. C'est un oui, continent pour le monde entier, le brésilien. On est brésilien comme on est chinois, tu vois.
C'est exactement. C'est exactement
ça. Des périphéries qui s'agitent.
Oui, bon, des trucs, le Paraguay, la Bolivie, ils ont échappé au Brésil, voilà, un peu par hasard, voilà, mais bon. Alors, mais c'est vrai, mais t'as quand même là-dedans une revendication nationale de pays ou de régions dont c'est. Cette revendication s'est faite quand même sous le signe de la domination, c'est-à-dire c'est une revendication, c'est l'enveloppe pas au sens formel, c'est partie, disons, d'une revendication démocratique, une forme de démocratie politique, d'indépendance nationale, etc. Mais quand toi tu généralises le problème, tu dis j'ai découvert en Bolivie, absolument, mais quand tu le généralises comme un principe presque universel aujourd'hui, ça tend à gommer les. Quand même une différence de taille entre la fonction des revendications nationales en Bolivie, au Guatemala, etc.,
dominer,
et ici, où c'est quand même un principe national qui est devenu le principe d'une nation dominante et en partie dominatrice, qui ne peut pas être maniée de la même manière.
Oui, mais enfin, écoute, là, tu me resserres le discours des années 60 sur les deux nationalismes et peut-être le
oui, 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 oui.
Alors, d'accord, mais moi je réclame le droit à la fierté nationale, y compris pour les dominants. C'est pas du tout je crois que notre bourgeoisie actuelle, cette bourgeoisie financière, enfin je ne vais pas parler comme je ne sais qui, mais ce qui me sidère, c'est son absence totale de fierté nationale. Ce qui m'a sidéré chez les socialistes aussi, d'ailleurs. Bref. Je dis qu'on peut lutter contre son propre impérialisme, on peut être, moi j'étais partisan de l'Algérie algérienne, du Vietnam vietnamien, j'ai mes papiers en règle de ce côté-là, bon, mais je dis, oui, mais je suis aussi partisan d'une France souveraine chez elle, où on cesse de trembler lorsque Bill Clinton ouvre la bouche et qui ne va pas se cacher derrière son petit doigt lorsqu'elle n'est pas d'accord avec les autres Européens. Voilà, mais oui, je réclame le droit à la fierté, y compris pour les peuples qui vivent dans les pays dominants ou anciennement dominateurs. Voilà. J'ai peur que tu jettes le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire l'appartenance avec la domination.
Non, ça, oui, enfin, en plus, c'est une tentation, je dirais
presque. C'est vrai ce que tu dis, bien sûr, pour ne pas confondre, évidemment, le nationalisme de Reagan et le nationalisme de Marcos, évidemment. Ils ne sont pas du même côté de la barrière et du Rio Grande, et l'un est fort, l'autre est faible. D'accord. Cela étant dit, je serais de la gauche américaine, mais moi, je défendrais c'est la mémoire de la guerre d'indépendance, et puis et Lincoln, et puis toutes les grandes figures démocratiques du mouvement national américain.
Oui, mais non, mais ça, le problème, c'est que tu as l'air de faire un paquet cadeau que j'ai la faiblesse de peut-être d'ailleurs l'incorrection de vouloir trier dans le cadeau, hein, non, en disant, bon...
Je reconnais que c'est un papier qui cache le pire et le meilleur. D'accord, tu as fait raison. Il faut à chaque fois bien ouvrir, défaire les ficelles.
Parce qu'il y a des points sur lesquels on sera d'accord. Hein, le truc sur la laïcité, c'est pas des choses qui sont tombées du ciel, c'est le produit d'une histoire, il y a quelque chose à revendiquer. Ça reste un point... Bon, par exemple, j'évoquais tout à l'heure notre trop faible référence à la Révolution française, sur les questions aujourd'hui, on peut y trouver, y compris des inspirations.
Disons, la Révolution française, c'est tout de même Valmy, Carnot, la levée en masse, et vive la nation.
Oui, mais tu as exactement les deux mouvements. Non, mais je suis d'accord. Mais tu as les deux mouvements. Le principe d'universalité que tu évoquais tout à l'heure, et qui fait que pendant un premier temps, justement, il n'y a pas de définition organique. On adhère pratiquement à la Constitution. Bon, alors, elle est inscrite dans un espace, d'accord, mais on adhère, d'où l'accueil aux étrangers, qui n'est pas du tout, au début, en tout cas de la Révolution française, quelque chose de péjoratif. Il y a ce mouvement d'universalisation, mais il se heurte assez vite à des cristallisations et à des particularités. Et on voit très bien la transition où justement le rapport à l'environnement européen vécu sur le mode du complot, qui n'est pas fantasmatique, parce qu'il y a effectivement une réaction. Et moi j'ai rendu ça, je reconnais que c'est un peu facile, mais l'imbrication et en même temps l'opposition entre la Révolution et la République. C'est-à-dire il y a la cristallisation montante de l'État qui se fait en partie au détriment de l'élan révolutionnaire, de cette ambition universalisante, etc. Alors, ce que je te reprocherais...
Phénomène répétitif.
Oui, c'est récurrent. Mais ce que je te reprocherais, c'est de peu aborder, je ne connais pas tous les textes, j'en ai lu pas mal, même de toi, l'inscription historique de ce principe national. Oui. C'est-à-dire, aujourd'hui, par exemple, et là, on est quand même forcément confronté à la Yougoslavie, à la manière dont il semble que l'élan national, dans ce qu'il avait de dépassement, d'universalisation, de porteur justement de principes universels, est essoufflé pour le moins, je ne dis pas épuisé, mais essoufflé.
Est exposé à des involutions tribales.
Et du coup.
Particulariste, annexionniste.
Exactement.
Et fasciste. Oui, évidemment. C'est le grand drame de la nation, mais tu sais. Je dis pas que c'est facile, la nation, c'est la pire des difficultés, seulement tout passe par là. Bon. Mais je suis d'accord que c'est autant une question qu'une réponse. Et la question clé est de savoir si c'est la tribu germanique, le droit du sang, ou si c'est la nation républicaine, le droit du sol. C'est deux conceptions totalement antinomiques. C'est pourquoi les gens de Londres et les gens de Vichy se sont exterminés pendant plusieurs années, dans les années 60 également d'ailleurs. Voilà, c'est comme ça. Je suis bien d'accord que la nation est un truc terriblement ambigu, explosif, dangereux,
Ok. C'est par là que ça passe. Bon. Si tu peux dire, attention, c'est dangereux, je ne passerai pas par là. Je te dis très bien, tu ne passes pas par là, donc tu n'iras nulle part. Parfait, c'est un choix. C'est le choix d'une gauche de témoignage. Parfait. Mais si tu veux agir réellement sur les choses et sur les hommes, tu dois passer par là, avec toutes les ambiguïtés qu'il peut y avoir, qui sont les ambiguïtés d'un De Gaulle en 58, épouvantable, porté par l'armée, etc. Ouais, oui, oui, c'est vrai qu'on est toujours sur un fil du rasoir, mais au moins tu avances sur ce fil, tu fais quelque chose. Si tu tombes, tu fais plus rien, mais tu as la conscience tranquille et tu n'es pas dans l'ambiguïté. Tu dis universel, universel, universel. Nous sommes tous frères, nous les prolétaires du monde. Très bien. Inefficace. Parce que tu ne captes pas la source d'énergie, qui n'est pas la seule, mais qui est même la source d'énergie la plus constante, la plus profonde, la plus chaude, même si elle est latente à certains moments, qui est cet obscur sentiment national qui peut encore une fois accoucher du meilleur et du pire. On sait très peu de choses sur l'appartenance. Pour moi, c'est la chose clé. D'un point de vue même philosophique. En tout cas, moi, sans faire de la philosophie, on peut discuter éternellement. Ce qui m'a tout de même frappé, c'est que ceux qui jettent la filiation nationale par-dessus bord sont les premiers à être attrapés par elle, quoi. C'est la pire des choses me semble le refoulement de la chose. Parce que ça t'explose à la figure et tu passes directement, je dirais, du Lénine 1917 au Staline 1930. Ou du Castro 59 au Castro 90, tu vois. Bon. Moi, je préfère au début admettre qu'on est un mouvement national, on reprend tout l'héritage, on reprend le meilleur de l'héritage patriotique, et on essaye de contrôler ça, de le maîtriser, de négocier avec, mais c'est toujours évidemment un peu dérapant. La nation est dérapante, mais c'est pas, ça n'empêche pas qu'elle est motrice. Voilà. Et c'est là où tout de même. Parce que derrière la négation de la contingence nationale, il y a une vision très abstraite de la nécessité historique, très rationaliste, très hegelienne, qui me semble. Enfin bon, où tu fais la religion de l'humanité avec Auguste Comte, tu peux le faire, mais ça ne marche pas. Où tu fais un culte républicain, où tu essayes d'intégrer Jeanne d'Arc, Henri IV, jusqu'à De Gaulle, mais en passant par Louise Michel, par 1848, etc. Voilà. Moi, je suis pour cette synthèse-là, qui est la synthèse Michelet, si tu veux. Bon.
C'est pas la plus mauvaise.
Mais ça fait une différence de tonalité.
Mais tu peux pas. Régis, c'est quand même. Bon, Michelet, enfin, bon, en plus, moi j'aime beaucoup, mais c'est. C'est une synthèse à une époque où on peut dire que la nation peut encore avoir. Enfin, peut y avoir une bonne conscience nationale, disons. C'est une période de formation qui est dynamique. Alors,
c'est vrai.
Moi, je poserais le problème autrement, et là, curieusement, c'est essayer de te prendre à revers sur le réalisme politique. Ouais. Tu dis, bon, ouais. ça passe par là, mais ce par là n'est pas si évident. Dans quel sens? Contrairement à ce que tu sembles supposer, moi, je crois que, au contraire. Je ne dis pas que c'était le point de départ, mais on y est venu petit à petit. Il y a une conviction, c'est que la nation est presque, en tout cas jusqu'à maintenant, peut-être que ça va changer justement dans les grands basculements dont on parlait tout à l'heure, c'est l'horizon stratégique, en fait, y compris de la révolution dite prolétarienne. Le prolétariat n'a jamais prétendu pour le prolétariat, sans majuscule, mais au pouvoir sur une base de classe, en réalité, ou exclusive, de socialisme pur. C'est pas, la révolution n'a jamais été une sorte de grève générale qui s'est amplifiée. Il y a eu révolution quand les forces révolutionnaires ont apporté une réponse à une crise nationale, imbriquée. Que ce soit la Chine, soit bon, la Russie.
Le plus souvent avec une défaite patriotique, oui, et à une humiliation patriotique. Bon, donc, ça vaut bien pour la Chine que pour Cuba, que pour la Russie.
Donc c'est une réponse qui apporte des réponses à une crise de la société dans son ensemble, y compris de son expression politique dans la nation. Ça, nous sommes parfaitement d'accord. Et du coup, il y a un problème aujourd'hui. C'est-à-dire, aujourd'hui, dans beaucoup de régions du monde, il y a ce que tu appelles une dynamique régressive ou involutive de la question nationale, parce qu'on peut difficilement mettre la frontière, la question nationale légitime, on va dire, le Mexique face aux États-Unis, c'est assez simple, mais après, pourquoi pas la Corse, pourquoi pas... La logique fractale des fragmentations a des critères presque insaisissables. Bon, je crois qu'on serait assez d'accord sur l'approche de la Yougoslavie, mais une fois que les jeux sont distribués, ben on est devant la réalité d'un conflit de morcellement. Or, si on l'aborde comme ça, le problème qui nous est posé, c'est le problème, quelle est aujourd'hui la bonne échelle stratégique ? Et là, on est dans le déjà plus, pas encore. Bien sûr, le principe, la dimension nationale demeure. Bon, on peut prendre n'importe quel problème pratique, y compris la sécurité sociale. C'est pas demain la veille qu'il y aura un système européen, on pourrait le souhaiter, mais que ce soit sur la laïcité, l'école, la question nationale, on n'est pas prêt de fusionner.
Moi, je l'espère.
Si on fusionne, je crois que les résistances sont, justement, sont très fortes là-dessus. Et en même temps, donc, cette dimension, cette échelle-là demeure, et en même temps, pour une série de problèmes, elle devient inefficace ou inopérante, les deux. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a une nation européenne en gestation, bon, qui prendrait le relais tout naturellement, parce que c'est plus gros, on est passé de la petite échelle nationale à l'échelle continentale. Non, je crois qu'on va dans le sens d'imbrication multiple, de ventilation, de lieux de décision et de pouvoir, difficile à maîtriser d'ailleurs démocratiquement, parce que tout ça se répartit sur des échelles où on a peu prise. Et moi, je le vis comme un problème ouvert, du point de vue même d'un projet stratégique, c'est où, à quelle échelle agir. On a l'impression, pour ce qui nous concerne là, immédiatement, qu'on est conduit à penser, à agir, si possible, sur un double registre, l'héritage national et un quelque chose en construction, dont on n'est pas bien l'avenir, qui n'est pas forcément strictement européen, qui peut être aussi bien en partie méditerranéen, en partie mondial. Bon. Et sur lequel on voit mal les prises. Alors,
je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Hein. Je ne suis pas un monomaniaque de la question nationale. Je suis entièrement d'accord de cette juxtaposition ou cette imbrication d'espace concentrique. Effectivement, le cadre national n'est plus pertinent en termes économiques et décisionnel, mais je n'en tire pas la conclusion qu'il n'est plus pertinent au plan culturel et mental. Je crois qu'au contraire, il risque de s'exacerber dangereusement avec la mondialisation. Mais en tout cas, qu'il faille avoir d'autres prises que celle-là, c'est...
Au plan culturel et mental, comme tu dis, de toute façon, nous, là aussi, du point de vue pratique, on éprouve les limites des meilleures intentions internationalistes ou cosmopolites. Tu peux appliquer le principe républicain en Yougoslavie en disant qu'est-ce que c'est ces histoires de Croates, de machins, de Macédoniens, et pourquoi pas une république yougoslave avec des citoyenneté. Mais là aussi, on se heurte au problème, c'est qu'après tout, ces appartenances-là résistent. Et est-ce qu'on peut conjuguer, c'est quand même vraiment le défi. Moi, je vois par rapport aux Pays-Bas, je suis revenu pas mal de choses aussi. Au début, c'est c'est grisant. Puis tu te dis, bon, mais alors, Pays Basque autonome ou indépendant, et la Navarre, les propres copains basques sont un peu effrayés. Vous dites, bon, alors, oui, alors, et on peut avoir après une sorte de
féodalisation.
De féodalisation, de séparatisme navarré qui a toujours existé en partie, où ça s'arrête. Est-ce qu'on ne peut pas garder un cadre républicain, citoyen, j'aime pas au contraire, et des droits collectifs qui peuvent être des droits effectivement culturels, linguistiques, scolaires, parce que ça c'est des... On est dans notre temporalité de choses qui ne vont pas changer avec un décret législatif ou les normes de sécurité de Bruxelles ou de Paris d'ailleurs. Mais donc, ce qui apparaissait comme une utopie ou une illusion, par exemple, chez Otto Bauer comme solution culturelle au problème national, est-ce qu'aujourd'hui ça ne peut pas être un des éléments de réponse dans une logique d'État plurinationaux?
D'accord, oui, sans doute. Non, mais je suis d'accord là, tout à fait avec ce que tu dis.
Au moins en désaccord qui apparaissait alors.
Oui, donc j'ai voulu un peu maximiser notre désaccord, sinon on allait s'endormir un peu. Quoi. On était d'accord sur...
Non, mais c'est vrai que c'est un dépôt.
Mais bon, donc il fallait un peu. Mais. Oui, enfin là, je dois dire, je me sens mal à l'aise, tout de même. Ma conviction est qu'on va vers une deuxième fidélité, que l'Europe va se morceler, qu'on va voir revenir les clergés, les mafias, et que l'avenir est sombre, précisément parce qu'on abandonne le principe de l'État-nation. Donc, si tu donnes la version heureuse, une intégration harmonieuse, du petit dans le moyen, du moyen dans le grand, etc. Effectivement, je crains qu'il y ait mondialisation brutale, donc féodalisation compensatoire, défensive,
pour le moment, c'est...
avec des replis identitaires sinistres, et qu'on abandonne précisément l'universalité républicaine, qui est même dans le cadre d'une nation. Alors, évidemment, tu sais, là, la République, elle a son coup. Elle a son coup. Et son coup répressif parfois. Je ne dis pas qu'on a bien fait de tuer les Blancs en Vendée, il ne fallait sans doute pas les exterminer. Mais si on veut faire respecter la République en Corse, il faut coffrer des gens et passer à une autre phase. C'est-à-dire que la loi de la République, c'est pas une loi de tolérance comme il y a des maisons. Hein? C'est parfois, ça passe par la domination d'une langue nationale centrale sur les langues régionales, minoritaires, les patois. Bah,
peut-être pas là-dessus, je suis très,
bah, oui,
très jacobin.
Bah, oui. D'accord, bon, c'est, bah, on a les écolos contre soi, oui. On a les auto-gestionnaires contre soi, ouais. On a les Occitans, bah oui, les Bretons bretonnants, évidemment. Et les Yeshivas judaïsants, qu'il ne faut pas oublier, bah oui. La République, c'est pas l'épanouissement printanier festif, non, c'est une loi, un ordre. Mais à mon sens, c'est le moindre ordre, si je veux dire, c'est le moindre mal. Ça passe par de la coercition et de la régularisation. C'est vrai, il y a une phase normalisatrice de la République. Bon, mais je préfère ça à l'anomie généralisée qui nous pend au nez avec le 21e siècle, quoi, qui va être sinistre. Voilà, donc je défends, comme le pari pascalien, mon pari est la République, tout en sachant que ce n'est pas inodore, sans saveur et sans épanchement de sang, éventuellement. Si tu veux résoudre le problème corse aujourd'hui de façon républicaine, ça se fait pas par des discours.
J'avoue mon embarras.
Ah bah, ça passera par une petite guerre.
c'est-à-dire des embuscades, des préfets tués, des gendarmes séquestrés, et donc des arrestations, des liquidations, des petites guerres. Bah, il faut souhaiter que ça se passe mieux qu'en Vendée 93. Hein, mais enfin bref, pour te dire que je ne suis pas un utopiste de la République, je ne suis pas Condorcet, si tu sais qu'il y a derrière tout ça des facteurs d'imposition, d'encadrement et donc de répression.
Ça, la laïcisation de l'État, enfin, elle est passée par les tremblements du clergé, et puis je ne regrette pas, avec tous les excès, tout ce qu'on peut, mais enfin, dans ces cas-là, il y a toujours à boire et à manger. Mais enfin, bon, on en est encore héritier, puis là, pour ma part, je suis plutôt satisfait, parce que...
Cela dit, qu'il faille, comme tu dis, concevoir des intégrations par palier, qu'on puisse donner des droits de vote aux municipales, aux immigrés, par exemple. Moi, ce qui ne me choque pas encore, en bonne loi républicaine, ça crée des citoyens de deuxième ordre, c'est pas très, très, très cachère, si je veux dire.
Ah, mais moi, je suis pour des droits, là, pas seulement aux municipales. Effectivement, l'histoire des municipales, ces citoyens locaux, non, moi, si des gens travaillent, sont en situation régulière, pourquoi pas. Et justement, c'est une citoyenneté qui intègre dans le sens positif, pas forcément.
Oui, pour intégrer, encore faut-il qu'il y ait un cadre dans lequel s'intégrer. S'il n'y a plus de cadre, ça vient.
Mais le cadre, il est double. Comment il a fonctionné jusqu'à maintenant? Le problème aussi est compliqué. C'est que, bon, il n'y avait pas les mêmes obstacles culturels pour l'immigration européenne, italienne, etc. Mais c'est passé par des médiations. Je crois, l'intégration n'était pas jouée avant la résistance.
Non,
mais il y a des gros événements comme ça qui
la semaine était préparée par l'école, par la CGT, les organisations de classe.
Les organisations ouvrières, oui. Ben, si les gens travaillent, l'expérience se répète sans arrêt. Sans mythifier, mais dans une usine, les gens sont d'abord compagnons de travail. Ils ont chacun leur singularité, etc. Mais c'est un creuset, l'école, le travail. Bon, alors, si les gens ne bossent plus, et si l'école elle-même.
S'il n'y a plus d'école.
S'il n'y a plus d'école universelle, tu vas avoir un problème qui est presque insurmontable. Mais sinon, c'est ça, si tu veux, dans les ambiguïtés, les difficultés de la revendication nationale aujourd'hui, tu passes vite de. C'est ça qui me gêne.
Mais je comprends très bien.
Tu passes très vite du principe de quota au bulldozer, du travaillant français au produisant français, au travaillant français. Bon. Et à la limite, on pourrait reprendre les mêmes principes républicains et les interpréter dans un sens d'accueil et d'ouverture, sans dire bon, tout est possible, pas non plus. Mais. C'est prendre le fil effectivement universaliste de la République.
Oui, mais même ce fil universaliste, pour le tenir, il faut accepter d'être particulariste, c'est-à-dire de savoir exclure. Si tu veux intégrer, il faut aussi que tu refuses d'intégrer.
Oui, il y a un intérieur et un extérieur, ça j'entends bien.
Tu seras soumis. La politique, c'est pas drôle. La conclusion du fait que la politique, c'est pas drôle. C'est pas drôle parce qu'au fond, c'est vrai. Le classique, gouverner, c'est choisir le moindre mal, c'est du même. Je ne vois rien. Alors vous êtes un peu préservé de ça parce que vous êtes vierge et pure, martyr et vierge donc martyr, donc vous n'êtes pas. Vous êtes même là. Les limites de la victime, quoi. Vous, Trotsky, si je veux dire, n'avez jamais eu à assumer un pouvoir effectif.
Enfin, aussi, au moins le père fondateur l'a assumé, et ça n'a pas été le plus tendre.
Ça n'a pas été le plus tendre. Ouais. Mais le principe de réalité ne vous est pas consubstantiel.
C'est élégamment dit, mais on peut accepter ça.
Et là, c'est au fond la deuxième différence avec toi, c'est un peu celle-ci, c'est que je suis beaucoup plus machiavélien, quoi, c'est-à-dire réel politicien,
franchement pessimiste, pragmatique, et donc prêt au pire serait sans doute exagéré, mais d'emblée mélancolique. Ce d'ailleurs en quoi, qui va au pouvoir, pour moi, perd son âme et doit accepter de la perdre. Alors, tout est dans les limites, effectivement. C'est ce qui distingue les grands des petits. On peut dire que De Gaulle n'a jamais tué, torturé, emprisonné, il n'y a pas de... Mais c'était le compromis, c'était les barbouzes, c'était des tas de choses, notamment l'oppression des minorités régionales, sections des hauts, de ça. Il faut voir en Suède. Je mentionne Palme plusieurs fois.
Oui, j'ai vu.
Palme me semblait vraiment un exemple d'honnêteté sociale démocrate. On peut dire que le pacifisme du pays, l'absence d'armée, l'absence d'opposition, enfin, la cohésion sociale très forte. Mais enfin, il y avait tout de même chez lui une très grande. Pour le coup, une laïcité, une sécularisation du pouvoir extrêmement. À la limite, c'était le premier des fonctionnaires, avec une notion de service public, de dévouement ordinaire au bien.
Tu l'as connu, toi ?
Bah oui, je l'ai assez bien connu, quand même. Et je dois avouer qu'il régnait un esprit d'égalité, de camaraderie, un peu bourru, simple, quelque chose de très républicain, si tu veux, voilà, que j'aimais bien. C'est vrai que je dis, moi je trouvais ça très bien, c'est vrai qu'un jour je l'ai vu. Il était Premier ministre, demandait à être accompagné par un copain de son cabinet parce que sa voiture était en panne. Mais il sait qu'il a été tué deux ans plus tard pour la même raison.
Bon,
même en Suède. Donc, mon paradigme n'est peut-être pas viable. Mais en tout cas, j'ai eu cet exemple. On peut dire que Allende aussi était l'expression de cette bonhomie républicaine dans l'art, dans l'art de gouverner.
On était secteur.
Le paradigme n'est pas très viable. Il a fini comme il a fini.
Oui.
Alors que
il était au moins, en théorie, plus viable probablement en Suède qu'au Chili.
Voilà. Alors que Fidel, il est toujours là depuis 35 ans. Il risque de rester encore 20 ou 30 ans, mais. Pourquoi ? Parce que quand il se déplace, il y a un bataillon de 1800 hommes qui l'entoure. Ça fait beaucoup de... Voilà. Et puis, quand il faut mettre les gens en taux, il n'hésite pas. Et quand il faut en fusiller quelques-uns pour l'exemple, non plus.
Et ça, c'est un peu hors antenne.
Ouais.
Tu dis que tu as cessé de l'appeler Fidel autour ou à partir de l'affaire Ochoa.
Oui. Tu t'appelles Fidel, toujours. Mais oui, c'est une habitude. Mais c'est vrai que ça a été le tournant. Ça a été le tournant pour moi. Et je dois avouer avec un certain remords, car c'est un phénomène qu'on a connu au procès de Moscou. Semprun en parle d'ailleurs pour les procès de Prague. Il se trouve quand tu connais un inculpé, ou deux, ou trois, c'est plus la même chose que lorsqu'on te dit il y a des contre-révolutionnaires sinistres payés par la CIA qui débarquent, etc. Oui, effectivement, d'accord. Mais il se trouve que tu connais les gens. Puis tu vois tout d'un coup qu'on reconstitue leur vie, leur existence, leur fonction, de façon loufoque, abracadabra. Enfin, le mensonge, tu dis, ça non. C'est la première fois où j'ai eu le test, si tu veux, parce que je connaissais vraiment assez intimement les frères de la Guardia. Et tout d'un coup, la défiguration publique de ces hommes, tu te dis, mais c'est pas possible. Et tu commences à faire une règle de 3, et c'est vrai que moi, j'avais assisté un prof.